le gang des gazières.
Qu'est-ce qu'il y a?
T'as pas entendu un truc bizarre?
Si.
Qu'est-ce que c'est?
C'est le gaz. C'est le gaz dans l'appartement en dessous. Des fois, il y a des fuites, alors ça s'accumule. Puis s'il y a une étincelle, ça explose. C'est normal. Et qui dit explosion, dit détonation. D'où le bruit que t'as entendu tout à l'heure, voilà.
Le gaz des gazières!
Des blagues.
Du boucan.
Des lectures.
Chant.
Des coups de gueule.
Des interviews.
Des recettes.
Tous les premiers mercredis du mois, de 20h à 22h.
Le gang des gazières.
On mixe les cow-boys. Mais c'est pas une émission culinaire.
Et c'est sur Radio Galère.
Et vous êtes bien donc, comme le dit le générique, sur Radio Galère, vous écoutez le Gang des Gazières, mais ce soir, petite incartade, on a donné le plateau à la quinzaine stupéfiante. Et la quinzaine stupéfiante, c'est un festival qui dure 15 jours, sans surprise. Et mais avec plein de surprises dedans. Et du coup, qui parle de consommation de drogue, de RDR, et qui a plein de un agenda très fourni et très riche. Et voilà. Et ce soir, vous allez entendre parler de RDR, de HSA. Avec le Tipeee à Sud et le collectif Je dis oui, et Politoux avec une personne des Politoux, Princesse Mololaké, ou Déborah Emploi, la sœur de Paul, et ex de France Travail. Bonne soirée.
Bonsoir. Prendre soin de soi est un acte politique dans une société qui veut nous couler. Bravo à toi pour trouver ton rafio, ton grog, ta boussole et ton GPS pour naviguer par tous les temps. Que le vent soit avec toi. Bonsoir à tout le monde. Je pense qu'on peut déjà faire un tour de table pour se présenter. Allez, je donne la main à gauche. On commence toujours par la gauche.
Muriel, je fais partie du collectif Je dis oui, j'habite à Marseille, dans le quartier des Réformés, Saint-Charles.
Salut.
Marianne, membre du collectif Je dis oui aussi, et marseillaise depuis une dizaine d'années.
Et moi-même, Déborah Emploi, membre du collectif les Politoux, que je viens parler de la brochure qu'on a faite ce soir.
Eh ben, à mon tour, donc moi c'est Saul, du Tipeee à Sud, donc une association, donc on parlait RDR un petit peu en intro, donc réduction des risques, pour les personnes qui ne comprendraient pas. Et donc ce soir on vient présenter, on a fait un enregistrement lors du carnaval il y a 2 ans, et l'idée était un peu de prendre les avis de chacun chacune par rapport aux addictions à la salle aussi, avec le collectif Je dis oui, HSA. Vous seriez mieux placé que moi pour expliquer un petit peu ce que c'est, ce qu'il en est. Et donc l'idée était de se balader et perdre un peu son micro autour de toutes ces personnes. Et je pense qu'on peut directement commencer par ces petits enregistrements et faire un retour tous ensemble.
définir selon vous ce que c'est une drogue.
Une drogue Moi, je pourrais définir ça comme une sorte de nuage qui t'aide à échapper un peu à la réalité, tu vois. Genre souvent les gens, et moi j'en fais partie, hein, mais les gens qui prennent de la drogue, souvent c'est pour échapper à une réalité qui te déplaît et tout. C'est une sorte de camouflage en fait.
Tu veux répondre ?
Moi je dirais que c'est quelque chose qui te déconnecte de la réalité, qui te fait sortir de ton état conscient.
Et par rapport à...
Est-ce que vous vous considérez donc comme consommateur, consommatrice de drogue ?
Oui.
Ouais, moi je l'ai été à un moment, je consomme toujours, mais beaucoup, beaucoup moins. Et donc c'est tellement peu régulier que de là de me considérer comme consommatrice, non, tu vois.
Et est-ce que... quelle définition vous donnerez au mot addiction ?
Addiction, ça serait des moments où tu peux vraiment pas t'en passer, vraiment des moments où t'as pas d'autre choix, entre guillemets, que de te dire, putain là, il faut que je prenne un truc, sinon ma soirée ou mon moment, il va être différent, tu vois.
Pour moi, l'addiction, c'est vraiment le moment où ton corps, il le réclame. Ton corps, il t'envoie un message, même si ton cerveau, il n'est pas d'accord. Ton corps, il est en train de t'envoyer un message et il te dit j'en ai besoin. Et t'as beau lutter contre ça, à te dire non, faut pas que j'aille, bah, tu le fais quand même parce que c'est viscéral en fait.
D'accord. Est-ce que vous avez entendu parler de la salle d'injection ?
La halte soins addiction dont le projet a été annulé à Marseille pour l'instant.
Ouais.
Qui devait ouvrir au 110 boulevard Libération.
Ouais, qu'est-ce que vous en pensez ?
Bah, je trouve que c'est dommage, c'était une occasion d'encadrer un peu ce genre de pratique et d'aider les gens à faire que ça soit un peu moins hardcore et difficile pour leur santé. C'est dommage, c'est encore une perche tendue qui était pour les gens addicts vraiment de manière très compliquée. Et on leur a juste tapé dans la main en mode bah, chacun sa merde quoi.
Ouais, moi je trouve ça hyper punitif en fait de finalement ne pas mettre en place ce projet. Parce que c'est quand même des personnes qui ont besoin d'être accompagnées. Et je pense qu'être accompagnée dans un centre et de donner des bonnes conditions aux gens pour prendre de la drogue, eh bien c'est toujours un pas vers, en fait.
Dernière question.
Vas-y.
Dernière question. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la quinzaine stupéfiante à Marseille ?
Non.
C'est un festival qui est organisé depuis 6 ans dans les lieux où les gens font la fête et consomment pour parler de plaisir, de risque, de sexualité, de drogue, etc.
Okay.
La prochaine édition, elle aura lieu du 18 au 30 mars à Marseille. Et on propose plusieurs types d'activités. Du coup, on est là pour aussi en parler à travers le micro-trottoir. Donc là, il y a un petit flyer.
Okay.
Ça vous dit d'en parler autour de vous.
Ouais, carrément.
Il y a les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et plein d'événements, des projections, des rencontres, des débats. Donc n'hésitez pas.
Ça marche.
Vous aviez un dernier mot peut-être par rapport à ce dont on a parlé.
Essayer de faire attention, de ne pas consommer n'importe quoi, n'importe comment, et vraiment essayer de prendre soin de soi et prendre aussi un peu des autres autour de nous. Quoi.
Ne pas prendre de la drogue avec n'importe qui.
Merci.
Merci.
Je pense qu'il faut absolument... faut changer l'image, il faut vraiment en parler, faire comprendre aux gens que c'est une maladie, que enfin, l'image du patient addicto, il faut qu'il change absolument, du toxicomane, de tout ce qui est... rendre ça un petit peu plus, un peu moins trash, un peu moins crade. Et pour ce faire, c'est ce genre de lieu, justement, je pense que ça aurait permis des échanges et un peu plus de liens avec pour les patients et pour la population aussi, quoi. Merci, bon courage.
Merci beaucoup.
La même connotation sur l'alcool et sur quel type d'alcool et suivant qui le boit aussi qu'avec la drogue.
Et est-ce que vous avez déjà entendu parler du projet de halte soins addiction qui était censé ouvrir au 110 boulevard Libération à Marseille ?
Bah, la salle de shoot là, ce qu'ils appellent la salle de... Ouais.
La halte soins addiction, ouais.
Ouais.
Et comment vous percevez ce projet ? Quel est votre avis par rapport à ça ?
Bah, pour moi c'est bien que ça puisse avoir, qu'il puisse y avoir des lieux où c'est encadré, où les gens puissent avoir une consommation safe de la drogue. En vrai ?
Oui, et que les gens qui en ont peur et qui craignent le truc, en vrai, ils y connaissent pas grand-chose. Et c'est pareil, toujours lié à des trucs de stigmatisation et d'image de personnes qui consomment. Alors
c'est
qu'en vrai, c'est des fachos. Alors qu'en vrai, les personnes qui consomment vont pas venir égorger leurs enfants ou faire des dingueries. Voilà.
Et de toute façon, ils consomment. Donc,
de façon safe et avec le bon matériel.
Oui. Peut-être vous poser une question indiscrète, mais qu'est-ce que les Total Spice peuvent permettre d'apporter justement à la lutte contre la stigmatisation des personnes ?
Alors nous, c'est vrai qu'on a de grandes ambitions en tant que Totally Spies. Notre projet, il est assez total. On vise une transformation totale de la société, la fin du capitalisme,
par
du fascisme,
l'autogestion,
du racisme, du sexisme, tout ça. Et du coup, bien sûr que les personnes stigmatisées parce qu'elles auraient des addictions, et ben on est de tout cœur avec elles. Et a priori, on a les mêmes ennemis qu'elles, à savoir genre des vieux réacs fachos.
Et on ira les tabasser sans souci.
Voilà, donc ils les emmerderont plus.
Voilà.
Merci beaucoup. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la quinzaine stupéfiante?
Non.
C'est un festival qui a lieu du 18 au 30 mars à Marseille, qui traite des questions de substance, de plaisir, de sexualité, de drogue, de stigmatisation.
Okay.
On vous encourage vivement à y participer, à relayer l'information. Et voilà, merci des Totally Spies.
Merci à toi.
Je sais pas ce que tu tireras de ça. Hein.
Alors, comment vous vous appelez déjà?
Moi c'est Félix.
Marine.
Vous êtes de Marseille?
Non, Bordeaux.
J'y habite, ouais.
Tu habites, mais...
J'y habite.
Alors, est-ce que vous êtes des consommateurs?
Oui.
Consommateurs de quoi?
Je fume pas mal de pétards. J'aime bien ça. Je bois pas mal d'alcool. J'aime bien ça aussi. Je consomme de l'amour à fond. De l'amour dans le sens large. C'est très plaisant aussi. Et après, au sens large, de bons moments, de soleil, consommatrice de soleil à fond. Voilà quoi.
Et moi je suis consommateur, oui et non, oui. J'ai eu ma grosse période pétard et j'ai testé MD et Coke. Voilà.
Est-ce que quand on vous parle de drogue, vous voyez plutôt ça comme quelque chose de négatif ou pas?
Je pense que ça peut être hyper négatif comme hyper positif et faut réussir à avoir le contrôle sur ça, ce qui est hyper compliqué et ça arrive avec, j'imagine, l'âge, l'expérience, tout ça, de la connaissance, de la conscience de ce qu'on prend, comment on consomme les choses. Mais moi, alors personnellement, j'arrive à dealer ça assez positivement, mais je sais que ça peut être assez négatif, quoi.
À quel âge t'as commencé ton premier produit que t'as consommé?
Bonne question. À 17 ans.
Est-ce que c'était une bonne expérience?
Ouais.
Et si je vous parle d'addiction, vous pensez à quoi? Quelle est la définition du mot addiction pour vous?
L'addiction, c'est quand tu en as besoin mais que tu t'en rends pas compte.
Et toi?
Ouais, c'est... L'addiction, c'est un échappatoire dans lequel on a l'impression d'être plus heureux, je pense. Okay.
Est-ce que vous avez entendu parler de la salle d'injection à Marseille?
Non.
Non, mais je vois ce que c'est, ouais.
Ok. Vous avez jamais entendu parler du projet?
Du projet, non.
Non.
À Marseille, non.
Non. Qu'est-ce que c'est pour vous, une salle d'injection?
C'est un truc... par exemple, j'habite au Canada. Au Canada, il y a beaucoup ça pour les drogues dures. C'est un endroit sain dans lequel on donne aux consommateurs... Par exemple, dans le cadre de l'héroïne ou du fentanyl qui est beaucoup au Canada, des aiguilles propres et stériles, des seringues en bon état, neuves, un cadre dans lequel ils peuvent être suivis, entre guillemets, quoi.
Et toi?
Bah, du coup, ouais, c'est une structure dans laquelle on peut prendre de façon... comment dire? De façon...
Protégée.
Ouais, protégée. Donc du coup bah voilà, la protection, c'est grave le mot d'ordre, je suppose. Il y a un espace de liberté aussi, je pense que c'est des endroits où on peut parler, communiquer sur ce sujet et c'est hyper important de le faire. Et ça permet en fait, je pense aussi, d'enlever toute cette culpabilité que certaines personnes peuvent avoir pour même réussir à avancer avec ça, quoi.
Et donc pour vous, oui ou non sur une salle d'injection à Marseille?
Moi à fond, ouais.
Oui, mais alors c'est pas une réponse à la question, mais j'aurais dit que c'est une première étape pour les consommateurs réguliers, parce que aider les gens entre guillemets à se droguer dans de bonnes conditions, c'est du court terme, et qu'à long terme il faudrait plus mettre en place des choses qui permettraient à ces gens-là de se défaire de ces addictions-là, quoi. Donc oui, carrément, pour cadrer un peu ces gens-là qui sont dans le besoin, ouais, oui, quand même.
Moi je dirais plutôt que, moi je suis hyper d'accord avec ça, parce que j'imagine que, enfin, je pars du principe que chacun fait ce qu'il veut tant qu'il est lucide, enfin lucide, pas toujours, mais en tout cas conscient de ce qui se passe. Et en fait, il y a aussi une grosse question d'isolement dans tout ça et mettre des structures en place pour ça, pour permettre à des personnes qui ont envie, besoin de faire ça, de le faire dans les meilleures conditions possibles.
Trop bien, merci.
C'est cool.
Moi, je pense que la drogue, c'est mal. Ouais.
C'est mal ?
La drogue, c'est mal, ouais.
Ok, pourquoi ?
Parce que la drogue, c'est mal, hein. Je vois pas ce que je peux dire plus.
Et qu'est-ce que tu penses, c'est, pour toi, c'est quoi la drogue ?
Putain, c'est quoi la drogue ?
Ouais. Est-ce que tu pourrais me définir des produits de drogue ? Pour toi, c'est quoi la drogue ?
C'est quoi la drogue, putain ? Ça, c'est technique, ce que tu dis. Attends, laisse-moi réfléchir. La drogue, c'est mal, qu'est-ce que c'est la drogue ? J'ai jamais réfléchi à ce que c'était la drogue, réellement.
Est-ce que tu consommes quelque chose, par exemple ?
Ouais, de temps en temps, ça m'arrive.
Qu'est-ce que tu consommes ?
L'alcool, c'est dangereux. C'est le provocateur de toute violence.
D'accord. Et tu pourrais définir d'autres drogues ? Est-ce que tes amis consomment de la drogue, par exemple ?
La cocaïne, par exemple, c'est quand même c'est spécial aussi.
Et pourquoi tu dirais que c'est mal ? Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a des gens qui pourraient se libérer à un moment, se sentir un petit peu mieux par rapport à ça ?
Non, pas du tout. Là, c'est une camisole. Oh. C'est pour nous faire oublier un peu le reste de...
L'écouter, il est défoncé.
C'est pas grave. L'addiction, tu penses quoi de l'addiction ?
L'addiction ? Ça dépend de quelle addiction.
Tu penses que c'est quoi l'addiction ? Une définition de mot addiction ?
Bah, c'est quelque chose que tu reveux. Ah, qu'est-ce que tu racontes ? Ça, non, mais franchement, pour le coup, tu me prends un but pour point comme ça. C'est quoi l'addiction ?
Non, mais c'est pas la question. C'est quoi l'addiction ?
L'addiction ? Ouais. C'est quoi l'addiction pour toi ?
L'addiction ?
Ouais.
C'est quand t'es accro à quelque chose et que tu peux pas t'en passer, que t'en as besoin, genre. Alors que quand t'en as pas besoin,
et
c'est
la
pas
drogue,
une addiction.
C'est mal, t'es d'accord avec moi ?
Bah oui, mais on aime la drogue.
Ok, super. Est-ce que si on te met sur un podcast, c'est ok pour toi ?
Ouais, pas de soucis.
Ok, super.
Merci.
Comment tu t'appelles ?
Momo.
Momo ? Ça fait longtemps que t'es à Marseille ?
Non, pas trop.
Ça fait combien de temps ?
Bah là, aujourd'hui, ça fait depuis 14 heures. Et sinon, en général...
Ah ouais, tu viens d'arriver à Marseille ?
En général, non. Enfin, moi, je suis venue à Aix-en-Provence pour mes études il y a un an et demi.
Alors, est-ce que tu es consommatrice ?
Un peu, pas trop.
Qu'est-ce que c'est quand tu dis un peu, tu consommes quoi, par exemple ?
Bah, de l'alcool et des drogues de temps en temps.
Et quand on te parle de drogue, tu penses à quoi ?
Les stupes. La brigade des stupes.
Non, je... C'est quoi, pourquoi ?
Non, ça va être des choses qui te mettent dans un état autre que généralement, mais du coup, l'alcool, ça compte dedans aussi.
Ok, est-ce que tu sais ce que c'est la RDR ?
Non.
Réduction des risques.
C'est quoi ?
Réduction des risques.
Ah, ok, ouais.
Tu sais ce que c'est ?
C'est pas des personnes qui vont justement aider à consommer, mais de manière un peu plus safe que généralement, genre pas partager les pailles, savoir ce que tu prends, ouais.
Est-ce que tu as déjà entendu parler de salle d'injection ?
Non.
Si je te parle de salle d'injection, tu sais pas du tout ce que c'est ?
Bah, j'imagine une sorte d'endroit pour les gens qui se piquent. Et j'imagine que ça va être un endroit un peu plus safe que d'habitude, mais je sais pas.
Et si y a un projet de salle injection, d'ailleurs, qui est déjà lieu à Marseille,
ouais,
qui ne marche pas, toi tu serais pour ou contre cette salle ?
Bah, pour, c'est cool.
Ouais. Et pourquoi c'est cool ?
Bah... Parce que je pense que dans tous les cas, les gens qui veulent se droguer vont se droguer et que autant qu'ils le fassent dans un bon environnement où on va leur expliquer ce qui est bien, enfin réduire justement les risques comme tu disais avant.
Et si, alors, grande fourchette, tu penses qu'il y a une majorité de gens qui se droguent comme tu dis ou une minorité ?
Ça, j'en ai aucune idée. Je pense une petite partie, mais je sais pas, je saurais pas répondre à cette question.
T'as le droit de pas savoir. Et quand je te parle d'addiction, ça te fait penser à quoi ? Pour toi, la définition du mot addiction, c'est quoi ?
Bah, c'est d'être dépendant de sa consommation et si tu prends pas de drogue, tu vas... Enfin, En vrai, il y a des addictions à différentes choses, donc c'est pas forcément ça, mais il y a un truc autour de la dopamine, je crois, tout ça. Et, mais c'est quelque chose dont tu peux pas te passer, ouais. Et si tu t'en passes, vraiment, tu te sens pas bien pendant un moment.
Et si je te parle d'addiction, tu penses forcément à de la drogue ou pas ?
Au jeu aussi, à la clope, mais est-ce que la clope, ça compte ou pas ? Je sais pas, comme drogue. Et l'alcool aussi, mais ouais, comme je sais.
Et le sucre, c'est une addiction aussi.
Le sucre. Je pense que le sucre, c'est ma principale addiction.
Ouais. Yes. Bon, merci. Quel âge tu as ?
9 ans et demi.
Dans quel quartier tu habites, Fanette ?
Joliette.
Et qu'est-ce que tu penses du carnaval ?
C'est trop trop cool.
Et pourquoi c'est trop cool ?
Il y a plein de gens déguisés, tu peux jeter de la farine sur les gens, c'est trop bien.
D'accord. Alors je vais te poser une petite question, et vous êtes les parents ?
Oui.
Oui ? Alors, ça va être une question pour tout le monde. Alors, nous, on travaille dans la RDR. Est-ce que tu sais ce que c'est la RDR ?
Non.
Ça s'appelle la réduction des risques. C'est de la prévention. Est-ce que vous connaissez, vous ?
De drogue ? Consommation de drogue ?
Alors, comment on pourrait expliquer ça à toi ? Qu'est-ce que c'est la consommation de drogue ? Comment vous diriez ça ? Se sont entendus pour une personne de 9 ans.
De 9 ans. La consommation... Alors, je lui dirais que... on en parle des fois, qu'en fait, il y a beaucoup de substances dangereuses ou pas qui, selon la manière dont elles sont utilisées, peuvent causer des dommages. Par exemple... Ça peut être si on mange mais tellement, ou si on consomme trop de vin, ou si on consomme d'autres drogues, mais dans des conditions qui ne sont pas adaptées et réfléchies.
Et toi, ça te parle quand on parle de drogue ?
Oui, un peu.
Et qu'est-ce que ça te fait penser ?
C'est des choses pour moi qui, dès que t'en prends trop ou que t'en abuses, tu deviens un peu toc-toc.
Toc-toc.
Elle-même a une addiction.
Ah, tiens. Quelle est ton addiction ?
C'est quoi ? Commence par un N.
Ah, ce serait pas du Nutella ?
Ah oui !
Tu as une addiction au chocolat. Alors, ça te fait quoi ? T'as envie de consommer du chocolat régulièrement ?
Bah oui, c'est bon.
Donc tu as une petite addiction alors au chocolat. Moi, c'est au sucre. Et alors, on va m'adresser plutôt à vous. Vous avez entendu parler de la salle d'injection ?
Oui.
Oui. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, je trouve que c'est vachement bien. Celle qui était à Longchamp, normalement, initialement prévue. Ouais. Et c'est super. Mais je pense que les gens autour qui ont refusé, peut-être qu'ils sont pas assez bien informés. Et...
Ça vous fait pas peur ?
Non.
Alors, il faut savoir que la salle d'injection n'aura pas lieu justement par la crainte des gens. Et nous, on va essayer de faire un petit podcast autour de tous les gens qui pourraient justement... On nous dit que c'est la crainte, mais je pense que les gens ont envie aussi de sécurité. Est-ce que vous sentirez que la ville serait un peu plus si on portait plus attention à des personnes dans des addictions ?
Ah bah oui. Attends, j'ai bu une bière alors pour me reconcentrer sur... évidemment, parce que je pense que ces personnes qui se droguent, elles seraient partantes pour pouvoir consommer dans des conditions qui sont sécures pour elles-mêmes.
Super.
Ouais.
Et super, voilà, j'ai ma petite interview. Il va y avoir un petit podcast. Est-ce que c'est OK si on vous met dedans ?
Ouais. Sauf qu'il faut remplacer Nutella par pâte à tartiner.
Voilà, c'était donc un micro-trottoir avec dealer de parole mené par les bénévoles du Tipeee, du bus et de Plus belle la nuit, un petit clin d'œil. Donc toutes les structures que je viens de nommer, des structures comme on a dit RDR, réduction des risques. Donc nous faisons principalement de la prévention autour des consommateurs, consommatrices, que ce soit drogue ou aussi autre, quelles que soient les pratiques de chacun chacune. Je pense que c'est le moment de faire une belle transition avec le collectif Jeudi Oui. Peut-être que je vous laisse déjà peut-être présenter un petit peu le collectif.
Pile ou face.
Alors, ce collectif s'est créé, s'est monté suite à l'abandon du projet d'ouverture d'une halte soins addiction boulevard de la Libération à Marseille. On était on participait aux réunions publiques, on était quelques riverains du quartier à être choqués par les réactions, d'opposition, les réactions qui ont été vraiment violentes à l'égard des consommateurs et consommatrices de drogue qui vivent dans la rue. Moi, j'habite dans le quartier des Réformés, donc je l'ai dit, et c'est des personnes que je croise tous les jours, que je connais, reconnais, avec qui j'ai pas de lien particulier, avec qui je ne m'arrête pas forcément de discuter, mais des personnes qui me bouleversent. Et j'étais très touchée par cette réaction violente des opposants au projet, et démunie, seule face à cette situation. Donc on était plusieurs à avoir ce sentiment-là, et on s'est réunis, on a monté un collectif pour porter une autre voix, pour montrer que des Marseillais étaient favorables à ce projet. On est convaincus que des personnes en ont besoin, que ça pourrait les accompagner, leur offrir, comme c'est souvent dit dans le micro-trottoir, mais pas seulement un lieu pour venir consommer leur drogue, bien sûr dans des conditions d'hygiène bonne, mais aussi un accompagnement, ça leur offrirait un accompagnement social, médical et un soutien. C'est des personnes qui ont besoin de soutien, on ne peut pas rester à les ignorer et à les mépriser comme les opposants l'ont fait, en fait. Voilà.
Ça fait combien de temps là, que le collectif Je dis oui existe ?
Depuis février, je dirais, 2023.
2024.
Ouais, ça fait un peu plus d'un an.
Tu voulais peut-être rajouter un petit peu quelque chose
sur la partie historique, comme c'était dit. Oui, non, c'était un peu. C'est vrai que le collectif il s'est monté un peu en réaction à l'annulation, à l'abandon du projet par les pouvoirs publics. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que les personnes qui se sont associées au collectif au démarrage étaient évidemment déjà en lien avec ce combat, on a envie de dire, et que ça peut concerner en effet beaucoup de monde. Voilà.
Je pense qu'on va faire une petite pause de musique avant de reprendre.
Yeah.
Bon, on vient d'entendre Tierra de Petrona Martinez, un petit son colombien et que j'apprécie fort. Donc on va enchaîner sur ces sujets quand même bien complexes et essayer à être le plus précis et le plus doux pour nos auditeurs auditrices pour qu'ils puissent peut-être se renseigner et accompagner ces beaux projets. Donc on va retourner sur le projet, donc le projet Je dis oui. Alors on va reprendre peut-être les actions menées que vous avez déjà faites autour du projet.
Alors, donc nous, comme on vous disait, on s'est constitué en janvier 2024, suite à l'annonce faite le 17 janvier 2024 d'abandon du projet d'ouverture de la halte soins addiction marseillaise au 110 boulevard de la Libération. Suite à ça, donc un certain nombre de personnes se sont réunies d'abord dans les locaux de l'association porteuse du projet, ses partenaires, où différentes réunions étaient organisées. Et puis en parallèle, on a commencé à se rassembler, à s'organiser, à réfléchir à ce qu'on pouvait faire. La première action, ça a été d'organiser un dying devant le conseil municipal de février. Qui faisait donc suite à cet abandon. On reviendra peut-être sur l'historique, mais la ville de Marseille était partie prenante aussi dans cette décision. Et donc, à la sortie du conseil municipal, on a mobilisé les rangs pour organiser ce dying, qui est donc un événement, un peu à l'image de ce qui s'est fait à l'époque d'Act Up et tout ça, hein, voilà, marquer le coup, ouais. S'allonger par terre et symboliser la mort de ce projet et puis peut-être aussi de toutes les conséquences graves de l'abandon de ce projet. Donc ça, c'était la première action pour interpeller les élus locaux et la presse, évidemment. Et ensuite, on s'est organisé, on a constitué un groupe, une mailing list, des réseaux sociaux, on a une page Insta, une page Facebook, Je dis oui. On a sollicité à l'issue de ça un rendez-vous avec monsieur le maire de Marseille. Le collectif a été reçu par le cabinet du maire qui nous a expliqué où on en était, c'est-à-dire que le projet n'avait pas lieu pour l'instant et qu'il allait qu'il restait dans les tuyaux et qu'il allait se poursuivre. Ensuite, vu que nos objectifs c'est aussi de toucher vraiment l'un de nos objectifs c'est d'essayer de toucher le plus large public possible, c'est-à-dire sortir du rang des personnes initiées, les professionnels de la réduction des risques, des associations médico-sociales, auto-support, etc., d'aller plus largement toucher un autre public. On a organisé une soirée au Boom, un bar du centre-ville marseillais, pas mal acquis à la cause, il faut l'avouer. Mais c'était une soirée où on a fait un peu de communication, récolté des soutiens, des fonds. Ce qui nous a permis par ailleurs de produire des affiches, on fait de l'affichage de rue sur la HSA et ces questions-là. Ce qu'on essaie de faire aussi, c'est d'aller à la rencontre encore une fois d'autres associations. On est en lien avec des associations de quartier, des collectifs de riverains, des associations de parents d'élèves. Voilà, des associations qui sont pas forcément sur ces sujets-là à première vue, qui ne sont pas forcément concernés, qui ne se croient pas concernés à première vue, mais on l'a vu dans le cadre du 110 Libé, qui était évidemment concerné, mais qui n'était pas bien informé forcément en amont. Et donc, on essaye d'aller les rencontrer.
Ou des personnes qui sont concernées et qui souffrent des nuisances liées à la consommation de drogue dans la rue. Il y a des gens qui se retrouvent avec des gens qui viennent s'injecter dans les montées d'immeubles, qui trouvent des seringues devant chez eux. Donc il y a quand même une problématique qui existe. Les gens se plaignent. Et la réponse que nous, on peut... Enfin, le discours qu'on peut porter face à ça, c'est que l'halte soins addiction est une solution qui réglerait en partie, une bonne partie de ces problèmes.
Oui, puis on l'entend bien d'ailleurs dans le reportage. Et d'ailleurs, merci et bravo pour ce documentaire sonore qui est vraiment très intéressant. On entend bien qu'on... la plupart des gens ne connaissent pas finalement bien la thématique des addictions, la définition d'une drogue, etc. Moi-même, d'ailleurs, je ne sais pas si je serai la mieux placée pour y répondre, mais bon. Et en tout cas, la question sur les haltes soins addiction, les salles d'injection, peu de gens connaissent véritablement. Moi, j'ai envie de dire, bon, peut-être que c'est normal aussi. Enfin, on ne peut pas tout savoir, surtout en détail. On est là sur des sujets, sur des problématiques assez, assez complexes aussi, qui touchent à plein de choses différentes. Et donc, tout le monde ne peut pas être spécialiste. Néanmoins, le problème, c'est que l'ignorance crée la peur, crée la crainte, crée des oppositions très, très virulentes, telles qu'on peut en entendre, et puis aussi des questionnements. Et en fait, tout le monde est concerné. Tu le disais, enfin voilà, dans le centre-ville de Marseille et même au-delà, tout le monde peut être concerné de près ou de loin, croiser des personnes concernées de près chaque jour, en avoir dans son entourage, en le sachant ou pas forcément, être soi-même concerné. Enfin, la question posée dans le reportage sur son propre rapport à la consommation, enfin voilà, c'est un sujet qui concerne vraiment, vraiment tout le monde. Donc, l'objectif, c'est de faire de la pédagogie, de rencontrer différentes associations. Ensuite, on se réunit régulièrement aussi. On essaie de communiquer le plus largement possible sur nos réunions, puisqu'elles sont vraiment ouvertes à tous et à toutes. On encourage tout le monde à venir, soit pour participer avec nous à des actions, soit se renseigner, partager des infos, écouter, enfin, peu importe. Voilà, la rentrée 2024, enfin après la rentrée scolaire, il y a eu un peu une reprise, notamment en réaction à ce qui s'est passé à la rentrée scolaire. Il y a eu des reportages dans les médias, notamment BFM et autres, sur les parents d'élèves qui trouvaient des seringues devant l'école Corsec à Belzunce dans le premier. Et bon, le sujet est réapparu dans les médias. C'est intéressant aussi de voir comment les médias traitent le sujet quand ils en ont envie. Et bon, le problème, c'était les seringues dans la rue, devant les écoles. Bon, bah, ok, mais en fait, c'est une question plus large. On peut pas simplement appeler les associations de réduction des risques, qui sont des associations avec des professionnels de tout genre, avec des compétences très variées et qui sont là pour accompagner des personnes, etc., qui sont pas là pour ramasser les déchets dans la rue. C'est pas leur vocation première, il me semble.
Mais pourtant, ils le font et ouais. Ils l'ont fait devant l'école Maurice Corsec. L'école a pu appeler, en cas de besoin, les associations pour ramasser des seringues dans cette rue.
Voilà, c'est ça. On a tendance à les renvoyer à eux, alors que c'est pas leur compétence première. Et donc voilà, suite à ça, on a eu envie de refaire parler. On a rédigé une tribune qu'on a voulu faire signer le plus largement possible aussi. Alors c'était pas une pétition. Le but c'était pas de récolter un maximum de signatures. C'était plutôt le faire signer par des personnes ou des personnalités qui pouvaient montrer encore une fois que des pans très divers de la société pouvaient soutenir ce projet. Donc on a fait tout un travail de sollicitation de signatures avant de pouvoir publier cette tribune dans Libération en novembre. Voilà, elle a été signée par, je ne sais plus, c'est 300 ou 500 personnes, mais des personnalités politiques de divers bords, plutôt à gauche, hein, mais de diverses parties en tout cas, des professionnels de la santé, des citoyens, des citoyennes, des associations, du monde de la culture, de différents secteurs, etc. Voilà, et après, en termes d'action, pour finir, la dernière grosse action qu'on a organisée, c'est une rencontre avec l'auteur de la bande dessinée À moindre risque, Matelette, qui a été édité à l'édition La boîte à bulles, et qui est une bande dessinée qui raconte l'immersion de cet auteur dans la salle de consommation À moindre risque, l'équivalent de la halte soins addiction de Paris, et qui raconte en bande dessinée cette découverte du lieu et des personnes surtout qui y sont et qui la fréquentent. Et voilà, l'auteur est super et la BD est vraiment top parce qu'elle permet en fait de rentrer dans cette salle de conso pour les personnes qui n'ont pas vocation à y rentrer. Et ça permet de comprendre un peu mieux de quoi il s'agit.
Ouais. Je vais rebondir un peu sur ce qui a été dit. Donc, vous parliez là toutes les deux un peu le fait de parler, de vous rapprocher, d'être entendu par exemple par la mairie. Et le positionnement de la mairie, ça donne quoi à ce niveau-là ?
La mairie dit poursuivre ses recherches d'un lieu pour ouvrir une salle, être en difficulté pour le trouver et que toutes les étapes soient validées pour que ça se fasse. Mais concrètement, il ne s'est rien passé depuis un an quand même. Hein. Donc on n'est pas complètement dupes et satisfaits évidemment de cette situation.
Et en termes d'écoute, donc le fait que vous alliez parler auprès des écoles, des parents, est-ce que... Enfin, il y a une écoute, il y a des échanges, c'est pas forcément, enfin, c'est ouvert à l'écoute, à la disponibilité par rapport à tout ça ou c'est assez fermé?
Non, je pense qu'on a toujours été écoutés, bien accueillis. Pour Maurice Corsec, puisqu'on peut reprendre cet exemple concret de la rentrée, finalement, les seringues n'ont pas été retrouvées juste devant l'école, comme BFM le prétendait, mais un peu plus loin dans la rue. Donc on a senti aussi que c'était pas exactement... l'intention n'était pas bonne. Hein. On continue dans ce type de médias... à essayer de casser un peu l'image de ces structures.
Ouais, c'est compliqué.
Oui.
C'est compliqué parce que...
Il y a un gros combat et je pense que la communication peut... Enfin, on espère que ça peut faire bouger un peu
la communication,
les préjugés.
Et puis que le collectif aussi, enfin, si c'est ouvert à du monde en tout cas, qu'il y ait aussi du monde en fait, qui puisse aussi... venir, enfin, je trouve que c'est toujours aussi bien de voir que bah oui, c'est tout public en fait, ça touche tout
bien
le monde.
Bien sûr.
Ça aussi qui fait que ouais. Mm. Et qu'est-ce que ce serait quoi Alors on va peut-être revenir sur l'histoire, peut-être vous voulez parler de quelque chose en précis, plus précisément par rapport à l'HSA ou
peut-être en deux mots.
Ouais.
Je vais essayer l'exercice de peut-être juste rappeler ce que c'est qu'une HSA, une halte soins addiction. Ça, c'est quelque chose qui nous frappe aussi dans toutes les rencontres qu'on fait. Là, encore une fois, la méconnaissance de beaucoup d'acteurs et d'actrices qui même, OK avec ce genre de dispositif, finalement, on pas forcément toujours toute l'info. Et encore une fois, c'est normal parce que ça me paraît normal parce que c'est assez complexe. Mais en deux mots, les haltes soins addiction, ce sont des établissements médico-sociaux qui permettent aux personnes usagères de substances psychoactives par voie d'injection et d'inhalation aussi, la plupart du temps, de venir consommer dans cet espace. Comment dire, ces espaces, ils sont tenus par des professionnels de santé, du social, de la médiation. Ils consistent, pour donner les choses, pour expliquer les choses très concrètement, en gros, une personne qui veut venir consommer, elle vient, elle se présente à l'accueil, elle explique ce qu'elle veut consommer, elle montre ce qu'elle veut consommer, elle vient elle-même avec sa substance qu'elle veut consommer. Elle est enregistrée dans le lieu, c'est évidemment gratuit et c'est anonyme, hein, suffit de donner un pseudo, peu importe. Et ensuite, on lui dit OK, attends un peu ou vas-y tout de suite. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, une fois qu'elle a attendu, elle rentre dans la salle de consommation à proprement dite et là on lui fournit tout le matériel nécessaire pour sa consommation, matériel neuf évidemment, totalement propre et stérile. Et cet espace-là, il est donc il y a des postes hein, qui sont prévus pour sa consommation. Et il y a toujours au moins deux professionnels qui sont là, dont un professionnel de santé qui est là pour superviser la consommation. Voilà, et la personne ensuite consomme elle-même de façon autonome. Et ensuite, elle va dans un troisième espace qui est l'espace de repos. Et là, elle peut y rester le temps qu'elle veut suite à sa consommation avant de prendre une collation éventuellement, boire un café... Avant de repartir. Voilà, c'est tout simplement ça, en fait. Une salle de consommation à moindre risque qu'on appelle maintenant les haltes soins addiction. C'est la loi qui permet ça, évidemment. C'est totalement légal, faut quand même bien le rappeler. Enfin, c'est évident, mais en vrai, c'est paradoxal, parce que c'est quand même une loi qui permet de faire quelque chose d'illégal. Donc c'est là qu'en fait, c'est pas toujours simple à intégrer pour tout le monde. La loi, elle est aussi... Ces dispositifs, ils sont co-entourés par plusieurs institutions. Et c'est eux, d'ailleurs, qui valident, en fait, ce genre de projet-là. Il y a évidemment la santé, le ministère de la Santé, parce qu'on est sur un projet de santé publique. Donc, c'est le ministère de la Santé qui encadre ça. C'est les agences régionales de santé qui valident vraiment les projets, le protocole, tout le dispositif qui est à mettre en place. Il y a aussi le ministère de l'Intérieur, puisqu'on est aussi sur des questions de consommation, sur ces sujets-là. Il y a un partenariat avec l'Intérieur, la préfecture, la police qui rentre en jeu aussi. Ouais. Et enfin, la justice, puisqu'on est, encore une fois, on est sur la pratique d'une activité à la base illégale. Et donc, c'est tout un travail de concertation, avant tout, avec ces acteurs-là qui permet l'implantation. Voilà, en deux mots, la loi, elle existe en France depuis 2016. C'est une loi dite d'expérimentation, puisque les pouvoirs publics n'ont pas voulu créer ces dispositifs une bonne fois pour toutes dès le départ. La loi a été expérimentée, elle a été évaluée. Donc, en 2016, il y a deux salles de consommation à moindre risque qui ont ouvert, une à Marseille, une à Paris. Pas du tout à Marseille, n'importe quoi. À Paris et à Strasbourg. Voilà, les deux qui existent. Aucune autre a ouvert en France depuis 2016, ce qui pose quand même question aussi de l'application de cette loi, enfin de l'utilité de cette loi. Il y a d'autres pays où il y a beaucoup de salles, d'espaces qui existent. Une évaluation scientifique a été faite en 2020-2021 par l'INSERM, à la fois sur le volet sanitaire, quels sont les impacts positifs ou pas sanitaires de ce type de dispositif. Réponse, c'est positif, je vous la fais courte. Sur les impacts sur la sécurité et la tranquillité publique également, puisque c'est ça aussi l'un des enjeux qui se pose. Résultat, les impacts sont positifs. On a une réduction du nombre de seringues dans la rue, on a une réduction du nombre de délits, ou je ne sais plus comment on appelle ça, à proximité. Enfin, bon,
d'overdose, de passage aux urgences des hôpitaux.
Sur les aspects santé, ouais.
Donc c'est
important. Voilà, c'est ça. Et le troisième volet de l'évaluation, c'est sur les aspects économiques, finalement. Est-ce que économiquement, est-ce que pour les finances publiques, c'est intéressant ? Et réponse, pareil, oui, ça coûte moins cher d'avoir ce genre de dispositif que de ne pas en avoir et gérer les problématiques de santé qui vont avec, quoi. Donc, on parle de cette évaluation. Il existe beaucoup de rapports d'évaluation sur les haltes soins addiction qui sont toutes unanimes sur ça. Et pour finir, la loi a été prolongée en 2022, puisqu'elle courait, enfin, la première loi d'expérimentation courait jusque-là, elle a été prolongée. Au passage, le nom a été transformé, hein, on appelait ça avant salle de consommation à moindre risque, et maintenant c'est les haltes soins addiction depuis 2022. Et la loi 2022 court jusqu'à la fin de 2025.
Ah ouais.
Donc là, en fait, à la fin 2025, on ne sait pas encore ce qui va se passer. Donc il y a trois possibilités. Soit la loi, soit l'expérimentation est arrêtée, terminée. Il n'y a plus de cadre qui permet les haltes soins addiction en France. Soit la loi est inscrite dans le droit commun, c'est-à-dire que ça devient un dispositif comme tant d'autres qui existent et qui sont inscrits dans la loi, soit l'expérimentation est prolongée. Pour l'instant, on ne sait pas. A priori, l'expérimentation serait prolongée. C'est pas encore sûr, mais on ne sait pas. Donc, le cadre qui permet l'ouverture marseillaise est complètement incertain. Je parle du cadre légal. Et la prolongation, la pérennisation de celle de Paris et de Strasbourg est incertaine aussi.
Et donc, ce serait quoi un peu les solutions ? Alors, on va nommer ce qu'on veut pas. Si jamais ça doit s'arrêter, ce serait quoi les solutions pour voir ce serait quoi les solutions pour accompagner les personnes si il n'y a pas de salle d'injection, si ça ferme, est-ce que...
Toutes les structures qui travaillent actuellement sur le sujet, qui accompagnent les consommateurs, consommatrices de drogue, continueront leur travail et seront bien sûr limitées dans leurs actions, mais continueront à bricoler pour accompagner au mieux les personnes qu'elles reçoivent. Voilà, donc en mode dégradé, évidemment. Mmh. Mais tu l'as pas tout à fait, enfin, peut-être, j'ai envie d'ajouter que l'accompagnement de ces personnes est global. On parle de santé, mais aussi d'un accompagnement social. Il faut vraiment réaliser que ce sont des personnes qui sont en grande précarité, qui vivent souvent dans la rue et qui ont plein de besoins. Donc les équipes qui travaillent dans les haltes soins addiction jouent aussi ce rôle d'accompagnement social et peuvent les orienter, sont en lien avec les hôpitaux, leur facilitent l'accès à des démarches administratives pour aller mieux, enfin, en fonction des besoins qu'ils ont, quoi. Donc tout ça, ça peut pas être offert dans les structures actuelles qui sont des petites structures avec des lieux qui sont pas adaptés à la consommation et dont les équipes ne sont pas complètes et aussi renforcées que dans les haltes soins addiction.
Voilà,
il faut savoir aussi qu'en de partout dans le monde, hein, ce type de dispositif se développe et la France semble quand même très en retard sur le sujet, quoi.
Oui, parce que peut-être, oui, c'est fou, et en plus surtout, faut vraiment se dire que, enfin, les HSA, hein, donc haltes soins addiction, on va dire HSA maintenant, tout le monde a suivi. En fait, c'est un outil parmi tant d'autres, et ça serait, c'est quelque chose de complémentaire à ce qui existe, parce que là, on parle beaucoup de la HSA, mais toutes les associations qui travaillent déjà qui portent, par exemple, il y a d'autres dispositifs, on parle des CARUD, des XAPA, je ne vais pas décliner les sigles maintenant parce que j'ai la flemme, mais ce sont des établissements médico-sociaux qui permettent d'aller vers, d'accueillir des personnes concernées et de les accompagner, comme tu disais très justement, sur plusieurs pans, quoi, hein. Il y a les aspects sanitaires, mais aussi l'aspect social. Enfin, c'est un accompagnement vraiment global. Et tout ça, ce sont des assos qui travaillent depuis des décennies sur le terrain. Ce sont des dispositifs qui existent, qui continuent, heureusement, et qui font un travail incroyable et complètement nécessaire. Et en fait, la HSA, ça serait quelque chose de vraiment complémentaire à ces dispositifs qui existent déjà, qui faciliterait énormément le travail, parce que déjà, ça offre un espace sécurisé de consommation. C'est aussi une porte d'entrée vers justement ce lien avec des professionnels ou en tout cas des personnes qui sont bien placées pour accompagner les personnes qui ont un besoin en fonction de leurs besoins. C'est une porte d'entrée supplémentaire, quoi. Donc voilà, c'est ça. Il faut quand même aussi rappeler qu'il y a déjà énormément de travail qui est fait. Et la question de l'espace de consommation en lui-même, en fait, la consommation, c'était dit aussi, elle existera toujours. Donc pourquoi ne pas permettre de proposer un cadre et ça solutionnera pas tout, hein, pas du tout, mais bon, voilà.
Mais c'est vrai que puis vous appuyez bien sur le fait que c'est des personnes assez précaires, effectivement, les personnes qui ont un logement se soucient moins forcément.
Bien sûr.
Et donc ça, c'est quand même bien à faire, à souligner. Enfin, je veux dire, clairement, oui, faut arrêter d'oublier les personnes.
Ça s'adresse vraiment à des
gens invisibles
en précarité.
Ouais. Je pense qu'on va refaire une petite pause musicale. On fait des super gestes pour qu'ils nous comprennent, c'est génial.
Junkie walking through the twilight. I'm on my way home. I left 3 days ago, but no one seems to know I'm gone. Home is where the hatred is. Home is filled with pain. And it may not be such a bad idea if I never went home again. Stand as far away from me as you can and ask me why. Beats. Close your eyes and watch me die. You keep saying kick it, quit it, Lord, but did you ever
En ampoule. De la binophénisulfonatrophénamide, de l'hexachlorocyclohexanesculoside, de l'acide aline isopropyl orbiturique, de l'éthavazine ammoniocotide phosphorique, de l'acétylaménéphénylarsinazole, du gazoxypropanédiol en capsule. Rien ne vaut, je le proclame, les vieux remèdes. Mon grand-père, d'un geste fier, en sortait de sa tabatière. Papa qui était estafette, en avait dans sa musette. Et quand j'ai passé mon bac, je trimballais dans mon sac.
Ah du tricylicate à l'hydrique de magnésium, du poids du sulfur gaïacolate de potassium, du glycéro-hydrate au mono-ammoniacal, du bichlorhydrate à mylène nicofficinal, de l'orthodioxybenzène autocopérol, du gazoxypropanédiol en ampoule, de l'amino phénisulfonate amphétamide, de l'hexachlorocyclohexanesculoside, de l'acide aline isopropyl barbiturique, de l'éthavazine ammoniocotide phosphorique, de l'acétylaménéphénylarsinazole, du gazoxypropanédiol en capsule.
Et si vraiment ça ne va pas mieux, pas mieux, pas mieux, je prends deux ou trois aspirines et un sucre.
Et bien c'est reparti.
Merci Ginette Garcin.
C'était très sympa de danser.
Bon, on va enchaîner alors. Est-ce que par quoi on pourrait continuer, qu'est-ce que vous avez envie de dire qui pourrait être poignant pour qu'on puisse un peu plus comprendre ou peut-être savoir c'est quoi la suite Il y a des actions à suivre, des...
Bah, la suite concernant le projet d'ouverture d'une HSA à Marseille est très floue. Hein, il y a très peu de... Enfin, les perspectives sont pas très encourageantes. Concrètement, pour l'instant, d'une part, cette loi, on ne sait toujours pas ce qu'elle va devenir exactement. Et puis, dans quelques mois, on rentre dans une période électorale. On y est déjà, en fait, que ce soit au niveau local, puis au niveau national. Donc... l'abandon du projet, je crois, montre que bon, c'est avant tout une question politique finalement. Cette question de santé devient une question politique. C'est ça qui est quand même très, qui est assez hallucinant, et que ça nous montre qu'il faut du courage politique pour porter ce genre de projet. Alors le projet, il était porté hein, par le Printemps Marseillais dans son programme. C'était écrit, mais pour l'instant, dans les faits, il n'est pas vraiment porté. Jusqu'à la prochaine mandature, on ne sait pas. Il ne se passera probablement rien. Donc ça, c'est assez décourageant d'un certain côté. Mais d'un autre côté, ça donne aussi très envie de continuer à se battre et de lutter pour ça. Et pourquoi aussi c'est important, parce que... On parle de choses beaucoup plus larges, en fait, que juste des consommateurs et consommatrices de drogue. On parle de questions de société plus larges. Tout le monde est concerné, encore une fois. Et ça nous renvoie aussi à des discours très violents qu'on peut entendre, et une parole qui se libère de plus en plus froidement, si j'ose dire, sur... Voilà, sur la peur de l'autre, la stigmatisation, un discours vraiment hyper violent que fait ressurgir cette question-là. On l'a vraiment vu dans les réactions, les oppositions, dans les réunions publiques, des discours de haine, quoi. Vraiment, des personnes qui interrogent pourquoi aider ces gens-là, quel est l'intérêt, en quoi ça fait augmenter leur espérance de vie. Enfin, vraiment, des choses... Mais en fait,
ils ont choisi de se droguer... En gros, ils voudraient les voir disparaître tout simplement de la société, quoi. Ouais. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à se battre, à essayer de lutter contre ces préjugés. Je pense qu'il faut garder, faut garder notre humanisme, regarder ces gens comme des gens, et puis faire en sorte de... En attendant la HSA, on ne peut que... De porter un discours, hein, concrètement, c'est vrai qu'à notre niveau, on ne fait pas grand-chose.
Et puis, la quinzaine stupéfiante, c'est aussi là pour ça, comme support Don't Punish. Et oui, effectivement, finalement, les actions, elles sont là aussi, quoi, porter encore la parole. Effectivement, les réactions, en fait, c'est des gens qui ne connaissent pas et n'ont pas d'arguments, en fait.
Et qui n'ont aucune empathie, je pense. Voilà, ils pensent que ça n'arrive, que ça ne les concerne pas.
Oui. Oui, c'est ça.
Voilà. Oui, on participe, à toutes les occasions, comme la quinzaine. Support Don't Punish, c'est un événement international qui aura lieu le 26 juin. Qui est une journée de soutien, hein, comme son nom l'indique, de soutien. Et voilà, on se montrera. On ne lâchera pas les élus non plus, qui doivent faire preuve de plus de courage, évidemment. C'est pas simple, hein, mais c'est leur boulot. C'est ce pourquoi ils sont engagés, ce pourquoi on les a élus. Donc on ne cessera de leur... on ne les lâchera pas non plus.
Voilà, essayer de faire plus de bruit que les opposants, qui sont en fait qu'une poignée, qu'une minorité, qui savent faire beaucoup de bruit quand ils le veulent, mais on se rend compte que a priori la majorité des personnes ne sont pas du tout contre une HSA ou autre dispositif en ce genre, et qu'il suffit de dialoguer. Après, ceux qui sont vraiment complètement contre et qui sont dans la violence extrême, nous, on n'est pas en capacité non plus d'aller se confronter à eux, mais c'est pas l'objectif non plus. Encore une fois, ils sont une minorité, donc faut faire plus de bruit et continuer aussi à travailler tous ensemble. Et merci aussi à la quinzaine de nous avoir associés. Et comme tu disais, on est ensemble aussi sur Support Don't Punish. S'il y a d'autres occasions, on essaie d'être là, d'être en soutien, en fait, à ce que font les autres aussi.
Bah oui, et puis ça, on parlait de RDR, la prévention, c'est autour de tout, en fait. C'est pas, il n'y a pas, un produit, une drogue. Et donc oui, c'est important de tout prendre en compte et c'est ce qu'on oublie. Hein. Enfin voilà, il y a toujours ah ça c'est pire. Non en fait, c'est bien de penser à tout en fait. C'est le but de la RDR, de la prévention. Vous vouliez rajouter quelque chose en...
Bah écoutez, il y aurait beaucoup de choses à dire, ouais, sur le sujet, mais on espère avoir déjà donné un aperçu. En tout cas, on est, voilà, nous on est des bénévoles, citoyens, citoyennes. Notre collectif est vraiment ouvert à tous et à toutes. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre, à nous contacter, à nous poser des questions, à nous donner des infos, à nous... on a toujours besoin de plus de force aussi.
Et lisez la BD À moindre risque, une BD vraiment top qui explique très très bien, qui est remplie d'humanité, qui est bouleversante de voir ces équipes prendre autant soin, avoir une patience illimitée pour accompagner les personnes qu'elles aident. Elle sera bientôt disponible à la bibliothèque de l'Alcazar à Marseille. On va essayer de faire en sorte qu'elle le soit dans d'autres bibliothèques de la ville. Donc lisez-la, c'est vraiment très et intéressant.
Où est-ce qu'on peut vous trouver? Alors si on a des questions à vous poser ou rejoindre le collectif, est-ce que vous avez peut-être une page à donner ou quelque chose?
Sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Insta, avec Je dis oui, on en retrouve facilement.
C'est ça.
Il y a déjà plein de petits autocollants partout.
Voilà.
Je pense que c'est le moment d'envoyer une petite transition musicale pour la suite, parce que les Politox nous rejoignent.
I want to get high so high. Bonsoir, bonsoir. Vous êtes bien sur Radio Galère, dans le gang des gazières. Je me présente, je m'appelle Deb, Déborah Emploi pour les intimes, la sœur de Paul, ex de France Travail. Je suis ici pour vous présenter les Politoux. Qui sommes-nous les Politoux? Grande, grande question, petite, petite réponse. Alors, comment nous présenter? Nous sommes un groupe d'autosupport en autonomie et en mixité choisie sans mec 6, basé sur Marseille. Et cela s'étale depuis plusieurs années, comptable sur le doigt de la main, avec des allées, des venues, des personnes beaucoup présentes, d'autres par parcimonie, et d'autres regrettées absentes à qui je dédicace cette émission. Nous tentâmes de nous réunir un mercredi sur deux, soit en faisant ce qu'on appelle un repas tchatch, donc on bouffe et on discute en même temps, ou bien des ateliers de création, d'écriture, que ce soit avec des intervenants ou des membres du groupe pour animer ces ateliers en vue de cette brochure que j'ai sous la main, qui est sortie lors de la quinzaine stupéfiante mercredi dernier. Et on a pu parler dans cette brochure, il s'est passé plein de trucs, on se voyait juste pour checker, se retrouver, papoter de nos consos, de nos sorties ou non du week-end, de nos dernières trouvailles musicales, avec des super DJ dans la clique, des littéraires, de nos états d'âme ou encore de nos oppressions vécues au quotidien. Ce groupe d'autosupport, il s'agit tout d'abord d'échanger où la parole est libre, où l'on se sent de tout près ou de très loin concerné par la consommation de drogue et par les oppressions qui en découlent en étant à la fois usagère de drogue et femme et minorité de genre. Nous sommes donc les Politoux, je vais les représenter ce soir, et nous avons ainsi, sur 3 années de travail, tenté de créer cette brochure que j'ai sous les yeux et d'y apporter nos témoignages, que ce soit des textes, des récits bruts, des écritures automatiques, des collages, des poèmes, des dessins, etc. Dans cette brochure, il y a un manifeste qui avait été déjà grandement énoncé par la quinzaine stupéfiante dernière, il me semble, ou il y a 2 ans. Dernière, on me fait au studio, je vais vous lire un petit passage. Politoux exige. Politoux refuse, Politoux est vivant. Politoux désire avec son foie. Politoux exprime les choses de l'intime. Politoux sème la fleur avant la tige. Politoux récame des blas, résille, guépard. Politoux affine sa vision du monde et la rend moins laide. Politoux affine ses narines pour sniffer de fins produits et de belles odeurs. Politoux conteste tous les droitards. Politoux exprime son opitoux. Politoux déclare aimer pleinement la drogue ou toutes les substances actives de tout son cœur. Politoux désobéit aux politiques. Il y en a plein comme ça et je vous invite à vous procurer la brochure qui va être, je pense, à Manifesten ou dans des lieux, des associations. On va voir où on la dirige, où on la disperse. Alors, quoi dire, qu'à dire ? Dans cette brochure, il y a aussi un sublime cadavre exquis que je vais vous lire d'ici même. Alors, il est où ce couillon ? Il est là. Alors, qu'est-ce qu'elle devient, la junkie globe-trotteuse ? Vomit sur les chaussures de maman ? Comme quand j'avais 15 ans ? Invisible, mais sous ton nez. Subtilement, enfin, pas du tout subtilement, il disait « il n'y a que les losers pour en prendre ». Donner, laisser, accueillir, réceptionner, mettre de côté, hors jeu, hors lieu, hors toi, DJ génial, princesse mollo laquée. Dissociation, au revoir l'hosto. 2022, année du Capricorne, c'est ça que tu m'envoies ? Ennui, fracture, je me fais chier, tout le monde fait chier, mais pas le choix. Je baisse les yeux et je marche seule. Une dernière fois et je me casse. Mais on se casse jamais vraiment, car on reste dans le corps des gens qu'on aime. Et oui, un peu, beaucoup, patiemment, intensément, il était une fois. 2 fois, 3 fois, nous irons au bois. 4, 5, 6, se faire un fixe. 7, 8, 9, à mort les keufs. Dans cette brochure, c'était le cadavre exquis, donc, il y a aussi un petit poème que voilà. Tox, tox, tox. Qui est là ? La vilaine toxicophobie que voilà. De la famille aux hôpitaux, pas moyen de lui tourner le dos. Elle s'initie dans les conversations de la backroom au salon. Sauras-tu la repérer pour la dézinguer ? Sauras-tu la repérer pour la déjouer ? Et sauras-tu la repérer pour la déboulonner ?
Cette poudre enchanteresse dont le pouvoir est de me griser d'une amoureuse ivresse. Une seule prise et ma chair est prise. Je vis des instants si doux, si doux. Tout mon corps frissonne de désir fou. Je m'abandonne. Cocaïne, c'est toi qui me prends. Cocaïne, je t'ai dans le sang. Tu me mines. C'est plus fort que moi. Cocaïne, je n'aime que toi. De mon amant, je revois les yeux. Il n'en est pas sur terre de plus profond, de plus amoureux, plus empreint de mystère. Oh, le joli songe pour qu'il se prolonge. Oh, laissez-moi briser mon poison. Je veux oublier cette trahison. C'est un mensonge. Cocaïne, tu brûles mon sang. Tu me ruines. Ton poison violent m'assassine. C'est plus fort que moi. Cocaïne, je n'aime que toi.
Vous êtes toujours sur Radio Galère, on écoutait Nita Joe, la cocaïne, elle a écrit ça en 1932. C'était assez rare et audacieux pour l'époque de parler de la drogue de cette manière. Alors, on va continuer, j'ai parlé dans l'introduction de la toxicophobie, je vais peut-être faire un petit rappel sur ce que c'est. Bon, dans la brochure, on l'a définie telle comme. La toxicophobie a été utilisée par les usagers de drogue pour décrire une peur, un sentiment négatif ressenti à l'encontre d'un usager de drogue et pouvant être à l'origine de comportements de haine, de rejet, de stigmatisation et de discrimination que peuvent subir ces derniers. Sémantiquement construit sur la base d'une peur de la toxicomanie et du fait de toxicomane, les associations d'usagers préfèrent aujourd'hui l'appellation d'usager, d'utilisateur de substances moins stigmatisantes. Donc, il faut savoir qu'au cours des discussions qu'il y a eu pendant toutes ces années du groupe d'autosupport des Polytoux, il est apparu que dans nos discussions, il y avait beaucoup. Ce qui revenait, c'était l'oppression, les discriminations vécues au quotidien en tant que minorité de genre et consommatrice. C'est-à-dire qu'on peut réfléchir à est-ce qu'on ne subit pas une double peine en étant à la fois consommatrice de drogue, et aussi sous le prisme patriarcal qui englobe la transphobie, l'homophobie, la misogynie. D'où l'importance de créer des espaces de parole d'autosupport avec des personnes concernées par les consommations de produits, car même dans les institutions, même dans la famille, même dans les amis, même soi-même, il y a de la toxicophobie. Par exemple, je vais parler de moi, j'ai subi pas mal de toxicophobie en psychiatrie. C'est-à-dire qu'on m'a fait la remarque plusieurs fois que je ne pouvais pas avoir accès aux soins si je ne mettais pas fin à ma consommation de drogue, qui est en fait une comorbidité de mon trouble. Donc on ne va pas s'en sortir. Ensuite, ils nous filent des drogues, ce qu'on appelle légales, donc du diazépam, qui ça par contre, ça passe, ça bousille le foie, on s'en fout. Mais la kétamine, on en discute un peu moins. Là, ça commence à revenir un peu sur le sujet parce qu'on se rend compte que ça soigne les grands dépressifs, tant mieux. Sur ce, je vais passer à une musique d'une super copine, une grande polytoux de talent, qui s'appelle Sakarine, qui va nous chanter « J'irai au crack à pied ».
J'ai rencard avec mon foie. J'ai mis ma plus belle robe de secret. J'ai mis le sou des bagarres. J'ai traîné des doigts. Mon parfum à l'amiante, ma chérie. Ma jolie perle de rosée défraîchie ne m'attend pas pour le souper. Tiré au crack à pied.
Tiré au crack à pied. Tiré au crack.
Thank you.
Vous êtes toujours sur Radio Galère, dans le gang des gazières. Je suis une politoux et je vais vous parler de la brochure dans laquelle on a sorti, et d'une recherche qui a été faite avec Marie Geoffrey, comment je vais pas écorcher son nom, Roustide, qui a fait une super recherche qui s'appelle Gender Harp et qui nous a filé un peu de sous parce qu'elle a fait des recherches sur nous, donc ils ont reçu des sous. Du coup, ça nous a permis aussi de financer ces repas de tchatch. Et elle nous a... Du coup, cette recherche, elle nous a qualifié de narco-féministes, ce que j'ai trouvé assez intéressant. Et je vous propose d'écouter un extrait de sa recherche qui est disponible sur YouTube, qu'on mettra en bas de page sur le site de Radio Galère. Et voilà, elle nous parle de narco-féministes, d'empouvoirment et de récits collectifs qui découlent de cette brochure et de ces rencontres qu'on avait avec les Politoux.
Ces récits mettent également en évidence que parfois l'entourage et les professionnels vont s'intéresser insuffisamment aux besoins, aux ressentis et au savoir des personnes concernées par l'usage. Lors d'un groupe, une participante va nous dire « Les gens n'y connaissent rien, mais les gens, les professionnels, nos proches, mais ils pensent toujours penser mieux que nous. » À partir des focus groupes que nous avons mis en place, les personnes issues de groupes minorisés construisent un récit collectif qui s'inscrit dans des logiques d'empowerment avec l'idée que dévoiler ces expériences de toxicophobie par la voie de l'écriture pourrait faire évoluer les représentations. Les participantes nous indiquent dans le groupe, la société devrait faire un travail sur les représentations, alors que les usagers et les usagères sont systématiquement mis dans une position où ils doivent se justifier, s'excuser de consommer. Une autre participante dans le groupe indique « Il y a l'idée selon laquelle les toxicos sont des menteurs et des menteuses, mais on nous oblige à mentir à cause de la toxicophobie qui nous pousse à nous cacher. On demande toujours aux personnes qui consomment de s'adapter aux autres. Ces représentations culpabilisantes peuvent amener les personnes utilisatrices de substances à ne pas demander d'aide, à cacher certaines pratiques d'usage et donc à dissimuler une part de leur existence et être moins bien accompagnés. À partir du travail donc, que nous avons réalisé avec le groupe Tipeee à Sud, nous nous sommes efforcés collectivement de valoriser ces savoirs dans des espaces également non académiques. Nous avons publié un article sur drogue et genre à partir d'une épistémologie féministe dans le journal d'Assud, et cet article a été coécrit avec le groupe Tipeee Festif Assud Marseillais en non-mixité choisie. Il est très important de pouvoir diffuser nos savoirs, qu'ils soient académiques ou issus de l'expérience, vis-à-vis d'un public également non académique pour permettre également que ce travail de recherche ait une visée de transformation sociale. Notre recherche participative s'inscrit également dans une approche narco-féministe. Cette approche narco-féministe permet de mettre en évidence que le rapport aux drogues chez les groupes minorisés ne doivent pas être appréhendés uniquement sous l'angle de la vulnérabilité, mais doivent également être appréhendés sous l'angle des savoirs expérientiels et du pouvoir d'agir. Ces savoirs ne doivent pas être lus uniquement aux drogues ne doivent pas être lus uniquement avec le prisme biomédical du risque de l'addiction ou le prisme prohibitif de la culpabilité, mais ils doivent également être lus avec le prisme de la recherche du plaisir et de la liberté à faire des choix éclairés.
Voilà, c'était Marie Geoffrey Roustide qui nous accompagne sur la recherche sur genre et consommation. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite ? Je vous propose d'écouter une petite musique pour se détendre un peu, parce qu'on est déjà bien détendu, mais on va mettre un petit nécro à Need Drugs. «
When I come home from work, I'm fiending for an 8-ball. I got crack on my mind, I'm hearing cocaine call, telling me to beep the dealer to deliver me stuff. Keep it a secret from my wife, cause she thinks I don't use drugs. There I was, bleeding from my nose, and damn, I couldn't breathe. But I'm still thinking about the next gram, it's Friday night. I'm not trying to leave my crib, dude, I kill myself while the dealer's eating Japanese food. I ain't got no pride while buying the shit. I'm lying to myself, telling the runner I'm trying to quit. It's all make-believe, I'll pretend that I'm true, and when you give me credit, I'll dodge you every chance that I get to. Even if it's good, I'll sniff it up in a minute. Beep you back and complain that you put too much cut in it. If you fall for that and bring me a new sack, I'll be making more crazy faces than Jim Carrey on crack. Cause yo, I'm ripped, I owe you loot. Plus I annoy you, I deserve to be murdered, but the coke is doing it for you. I got nerve, can you put them pills on my bill? Yo, I'll tell you we're friends, and yo, we don't even chill. I need drugs. Drugs. Bacon soda, cocaine, how sweet. I need to find me a crack pipe and I'm complete. Got these crack dealers chasing me through the cement jungle, cause they gave me shit to sell, and yo, I smoked a whole bundle. Yo, I can't front, I got dope in my spleen, and I'm telling everyone at this NA meeting I'm 38 clean. I won't die even with tuberculosis. I could go on forever mixing dope with my method on dosage. You can find me at Brighton Beach or Coney Island or Rikers Island. My crack pipe's my violin, I play alone to the police siren. My eyes squint looking for crack on the floor, picking up breadcrumbs and lint. I don't know who I am, ask me I couldn't say. I took a chance and tried to get clean and it lasted one day. Try to go to rehab too but couldn't get admitted, and if money's missing from your pocketbook, you know who did it. I need drugs. Marijuana, then graduated to coke, cause I needed something stronger. Masculine dust down with injection sensation. I love to experience a patient's medication. I'll snort the drugs off the back of my hands. All I need is a hit of it and I'll create a new dance. Protect yourself, baby, cover yourself up. My body swings all over once my seizure erupts into a frenzy. On the phone I got 30 cents, but when we meet face to face I got $10 less. Made up my mind, I'm quitting, I'm swearing in tears. I'm not gonna get high, I'll only drink beers. Can't sit and wait for my dealer to come provide it. Got a party to go to and I'm the only one invited. I'll search a whole house for that damn white mouse, and when I finally find it, I'll sniff the whole ounce. I need drugs. I need drugs. On my mind, I've come to realize you need me. And if you want me to keep copping, give me a free piece. It's my birthday yesterday. Anyway, I'ma go sniff this. I'll beep you in an hour. I hate you.
Bien sûr, Radio Galère, dans le gang des gazières, on écoutait Necro, I Need Drugs. Après avoir parlé de la brochure et des politoux, je voudrais quand même mettre un petit point, enfin comment dire, je voudrais parler des lieux de réduction des risques pour choper du matos propre à Marseille. Parce que au-delà de l'idée de se constituer en groupe d'autosupport dont vous pouvez faire partie, je pense qu'on mettra... En bas de page, quand il y aura le podcast sur Radio Galère, on mettra notre adresse Hotglue où vous pourrez nous joindre et vous peut-être nous rejoindre si vous êtes minorité de genre.
Et du coup, je voulais parler quand même des lieux de réduction des risques pour choper du matos propre sur Marseille. Il en existe plusieurs. Il y a le Tipeee qui est au 26 rue de la Bibliothèque, à côté de la Plaine. Il y a aussi le Chillin, qui est un super lieu qui est le jeudi soir, il me semble, de 18 à 20h, 21h, 22h, si je dis pas de conneries, qui est avec Plus belle la nuit et le bus 31-32. Vous pourrez rencontrer des professionnels de santé, mais aussi faire tester vos produits, ce qui est assez merveilleux. Vous venez assez tôt, vous venez avec votre prod et vous sortez et vous savez ce que c'est, s'il est pécou ou pas. Parce qu'en ce moment, il y a pas mal de drogues bien pures qui traînent. Du coup, voilà, il faut savoir un peu ce qu'on se fout dans le pif ou ailleurs. Et du coup, j'ai parlé de ça. Et il y a aussi le spot qui est au 3 boulevard Longchamp où on peut aussi se choper du matériel propre et faire des analyses. Ensuite, pour parler, clore cette émission, je voulais apporter quand même l'importance de l'entourage des amix dans la prise de soins. C'est-à-dire que donc, on a les groupes d'autosupport, ok, on a les lieux RDR pour choper du matos propre, mais les amix sont aussi les mieux parfois pour accompagner. Est-ce qu'on peut par exemple discuter de ses consos avant les teufs? Qu'est-ce qu'on a envie de prendre? Qu'est-ce qu'on n'a pas envie de prendre? De se faire un petit tour de météo personnel des prods et de son état psychique du moment pour passer un bon moment de teuf dans la drogue et la bonne humeur. Voilà. Et si tout ça aussi, on peut mettre en place avec un professionnel de santé spécialisé en addicto sans jugement. Ça court pas les rues, ça court pas les XAPA, ça court pas les Carudes, mais ça existe. Du coup, je vous invite à vous rapprocher des groupes, des pages, des amis, des bouches à oreilles pour se trouver des professionnels de santé sympas, parce que oui, ça existe. Et on va écouter maintenant DJ Top 4, I Need Weed in My Life.
Somebody roll me a blunt, this motherfucker. I need to get fucked up. I smoke too much weed, but I need weed in my life. I smoke so many blunts, I sold my kids and wife. My VCR's gone, I took it to the pawn shop. I need weed in my life, so bad I can't stop. My mama said if I don't quit, smoking so much herb, I'm gonna find my black ass smoking weed on the curb. But you don't understand, mama, why I need my herb. She took a hit of that shit, now she's smoking on the curb. I need weed in my life, so bad I can't stop. I need to stop taking all my shit to the pawn shop. I need weed in my life, my back's against the wall. I want my weed so bad, I'd sell my last pair of drawers. I need weed in my life, so bad I can't stop. I need to stop taking all my shit to the pawn shop. I need weed in my life, my back's against the wall. I want my weed so bad, I'd sell my last pair of drawers. Roll me a blunt, this motherfucker. I need some weed in my life. Somebody roll my blunt. Roll me a blunt. Roll me a blunt. I need weed in my life, so bad I can't stop. I need to quit taking all my shit to the pawn shop. I smoke too much weed, but I need weed in my life. I smoke so many blunts, I sold my kids and my wife.
my VCR is gone. I took it to the pawn shop. I need weed in my life so bad I can't stop. My mama said if I don't quit smoking so much herb, I'm gonna find my black ass smoking weed on the curb. But you don't understand, mama, why I need my herb. She took a hit of that shit, now she's smoking on the curb. I need weed in my life so bad I can't stop. I need to quit taking all my shit to the pawn shop. Straight up. Roll me a blunt. Roll me a blunt. I need weed in my life. Shit. I got five on it. Yeah. On a motherfucking bag. Bring the blunts, I got the weed. You bring the blunts, I got the weed. Out of here. We get high in this motherfucker together. Just me and you, and the whole crew. DJ Top Cat, one time.
I need weed in my life. Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Galère, dans le gang des gazières. Dans le cadre de la semaine, de la quinzaine, même stupéfiante. Je vais quand même dire un petit mot sur cette quinzaine qui nous invite ce soir. Il y a un super atelier Légitime Défonce, I'm Stone But Not Stupid, à l'Amiante, au 304. Vous pouvez vous fournir le dépliant de la quinzaine sur les réseaux à la con. Et sinon, on a au Vidéodrome, il y a un documentaire, le 4, sur toute la beauté et le sang versé. Et ensuite, la soirée de clôture, encore à l'Amiante, le 5, sortez vos habits de fête, il nous conseille. J'ai entre mes mains aussi une super brochure qui est sortie, qui s'appelle « Guide de voyage pour planer sans trop se cracher ». Alors, il me semble que voilà, version papier, il y a une première version PDF qui est disponible sur Infokiosque. Mais il y a une autre version papier un peu plus fournie qui est sortie, qui se distribue sous le manteau, vous l'aurez bientôt dans votre veste. Et dans cette version papier, elle est tirée de la brochure Guide de navigation en eau trouble en fait. Du coup, c'est pour faire un peu un checkpoint sur ses consos, sur ce qu'on a envie de prendre, qu'est-ce qu'on a pas envie de prendre, enfin plein de choses. Et oui, donc dans cette brochure, il y a une super phrase qui est cité dans Guide de navigation nos troubles et qu'on retrouve ici, qu'on a dit au début, mais qu'on reprend goût à dire. Prendre soin de soi est un acte politique dans une société qui veut nous couler. Bravo à toi pour trouver ton rafio, ton grog, ta boussole et ton GPS pour naviguer par tous les temps. Que le temps soit avec toi. Je voudrais aussi dédicacer cette émission à tous les amix, politoux, morts et vivantes qui nous entourent, au papa de Simone, à M, à Y et à tous les amis qui nous ont tristement quittés ces années et qui, pour moi, sont aussi des morts du système. Donc, nique le système. J'espère qu'on va avoir plus de salles de HSA, plus de sous pour les assos. Ramener les liasses, bande de connards, l'ARS, là. Et voilà, on va nous quitter là-dessus par les Politoux. Et vous pouvez sûrement retrouver toutes les informations sur le site de Radio Galère quand le podcast sera mis dessus. Je sais pas, d'ici une semaine ou deux, on verra. Suivant le temps, on a le temps, on est à Marseille. Voilà, bon ben, bonne émission, j'espère que ça vous a plu ou pas, et que vous avez peut-être des questions, vous les poserez à vous-même ou à vos amis. Bonne soirée.
On pourrait voir cette ville sans drogue, en vérité, ils nous en donnent, ce sera bientôt légalisé, ils savent très bien que ça nous endort. Parfois j'oublie le passé, cervelle cassée, moi je vis sans trop de logique. Encore un son qu'il faudrait placer sur ce qu'un cantologie. Y'a du shit quand y'a plus de zèbre, face au verre on tisse cul sec. Fumette et buvette, nous on s'empête, du Audi Q7. Parfois pressé, toujours précis, j'opère à la Niptec. Collage de speed dans le bâtiment, c'est la cannabis cup. Défoncé comme ma plume, les ongles noirs, des jeux de squelette. Une sale allure, je suis comme la lune, je me couche à l'heure où le jour se lève. Si t'as fini ton verre à l'aise, on remet ça comme la danette. Une vie pas nette, là c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack Daniel. Si tu le savais, le pitch, tu me tentes à faire de la merde, les flics te sentent. Mec, tu vas te perdre au fil, tu vends. Si tu te la pètes depuis que tu vends, j'ai plus de foliage des tissus du clan. On voit le porin en tutu blanc, je suis pire que l'orage, je suis à l'aise. À l'orage, j'avance dans leur apprenti, tu bans. Dans la tête, c'est gauche, droite, des poches, tard, des grosses barres. Pas de galette des rois, ici, avec la galette des clochards. Sous les graves, y'a de la haine sous les doigts, c'est bientôt l'examen du foie, on révise tout. Les soirs, ils veulent nous traîner dans la boue. On a le blues, les poumons calcinés. Demande à nounours, c'est pas toujours de la bouffe qu'à sur la gazinière. Quand les standards s'entassent, le foie est plein d'entailles. Et moi et ma taille, c'est le grand amour. Et tous les soirs, c'est la Saint-Valentin. Y'a plus une ville sans drogue, en vérité, ils nous en donnent. Ce sera bientôt légalisé, ils savent très bien que ça nous endort. Parfois, j'oublie le passé, cervelle cassée. Moi, je vis sans trop de logique. Encore un son qu'faudrait placer sur ce qu'un cantologie.